Mesdames et messieurs, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Chers internautes qui nous suivent en ligne sur les différentes plateformes gouvernementales, bonjour. Ce mercredi 22 juillet 2026, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 14h au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce jour ont porté sur 11 points constitués pour l'essentiel de mesures générales, 10 mesures générales, essentiellement donc des projets de décret et une communication. Je voudrais à présent faire avec vous le compte-rendu donc de ce conseil au cours duquel 11 projets de décret ont été adoptés. Disons 10 projets de décret et une mesure générale. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets. Le premier décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 17 millions de dollars américains, soit un peu plus de 9 milliards 579 millions, conclu le 13 avril 2026 entre la Banque arabe de développement économique en Afrique, la BADEA donc, et la République de Côte d'Ivoire, pour le financement du projet d'augmentation du capital social de la Shelter Africa Development Bank, en abrégé SHAFDB, qui est une banque de développement spécialisée dans l'immobilier. Ce financement est destiné à la prise de participation au capital social de Shelter Africa Development Bank à hauteur de 3,3 millions de dollars américains, ainsi qu'au financement de la souscription à l'augmentation du capital pour un montant total de 13,7 millions de dollars américains. Cette opération permettra à la Côte d'Ivoire de porter sa participation au capital de SHAFDB de 4% à 10%, de consolider donc son positionnement au sein de l'institution avec un siège permanent au conseil d'administration, ce qui permettra donc d'accroître le flux de financement de la banque dédiée aux logements sociaux et au développement urbain de notre pays. Le deuxième décret porte sur la ratification de l'avenant 3 à la convention de crédit, complément du financement CI 148405 d'un montant total de 28 285 257 euros, soit un peu plus de 18 583 millions, conclu le 11 octobre 2024 entre l'Agence française de développement, donc l'AFD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement complémentaire du projet d'aménagement des marchés de Boaké et de Yopougon. Cet avenant porte sur un financement complémentaire affecté aux ressources initiales mobilisées pour l'aménagement des marchés de Boaké et de Yopougon. À terme, ces infrastructures modernes, à savoir la zone marchande de Boaké et le marché de demi-gros et de détail de Yopougon, permettront d'améliorer les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des produits et de revaloriser les fonctions commerciales de ces deux grandes communes. Le troisième décret adopté donc par le Conseil de ce jour ratifie l'accord de prêt d'un montant total de 30 milliards de francs CFA conclu le 28 avril 2026 entre la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Yabayo-Bio longue de 60 km. Ce projet vise globalement à renforcer la structure du réseau urbain en vue de soutenir la dynamique de développement économique équilibré du pays. Il comprend non seulement l'aménagement et le bitumage de la route Yabayo-Bio d'un linéaire total de 60 km, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais également des opérations de bitumage de 8 km de voirie réparties en Bio, Dapeua et Yabayo. Il permettra également la construction de clôtures pour les établissements scolaires et les centres de santé ruraux, l'aménagement de plusieurs espaces publics à Bio et la réalisation de 10 forages dans la localité de Bio. Le quatrième décret, quant à lui, ratifie l'accord cadre de vente à tempérament d'un montant total de 15 250 000 euros, soit un peu plus de 10 milliards de nos francs, conclu le 8 juin 2026 entre la Banque islamique de développement, la BID, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement additionnel du projet de construction de routes du centre-ouest en Côte d'Ivoire. Le financement objet de cet accord permettra de réhabiliter en route revêtue deux tronçons de route de terre d'une longueur totale de 100 km reliant tout le pleu Zouaounien et Séguéla-Mankono. Il comprend également les travaux d'aménagement connexes, incluant notamment la construction d'ouvrages de drainage, de ponts et de tronçons de voirie urbaine, ainsi que l'aménagement d'éclairage public et de stations de pesage. Enfin, le cinquième décret, adopté donc par le Conseil de ce jour, au titre donc de ce même ministère, porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 87 300 000 euros, soit un peu plus de 57 200 millions de nos francs, conclu le 5 juin 2026 entre l'Association internationale de développement, l'AID, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de développement communautaire et local dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le projet a pour objectif d'améliorer l'accès aux services de base ainsi qu'aux opportunités économiques dans l'ouest du pays. Il prévoit notamment la construction, la réhabilitation, la modernisation et l'équipement d'infrastructures communautaires à petite échelle, notamment des établissements scolaires, des centres d'alphabétisation et des centres de santé identifiés par les communautaires bénéficiaires elles-mêmes. Au plan socio-économique, le projet intègre l'appui en intrants agricoles, l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, le renforcement des réseaux de connectivité entre les zones de production et les pôles économiques et le financement d'activités génératrices de revenus pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière, valable pour l'or, réparti comme suit. Un permis à la société Rose Mining SARL dans les départements de Diarra et de Mankono. Un permis à la société Ximi SARL dans les départements de Dabakala et de Kong. Un autre permis de recherche à la société Pioneer Minéral SARL dans le département de Korogo. Et enfin, donc, le dernier permis de recherche à la société Major Star Plus SARL dans le département de Boundiali. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret autorisant la cession d'un ensemble immobilier du Bureau national d'études techniques et de développement, donc le BNET, objet du titre foncier numéro 4496 de la circonscription foncière de Cocody. L'ensemble immobilier, 6 à Cocody, composé d'une parcelle de terrain d'une superficie de 22,2 hectares et des constructions qui y sont édifiées, propriété de BNET, société d'État, est prévu pour être cédé à un opérateur privé spécialisé dans le développement de projets immobiliers et touristiques de grande envergure, dès l'achèvement des travaux donc de construction du nouveau siège du BNET. Conformément à la législation en vigueur en matière d'aliénation des biens immobiliers des sociétés d'État, ce décret approuve les termes de l'opération. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder avec vous la seule communication qui a été adoptée donc au cours de ce conseil. Cette communication est au titre du ministère du Plan et du Développement, en liaison donc avec tous les ministères concernés. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a entendu une communication relative au compte rendu du groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement, le PND donc 2026-2030, organisé les 8 et 9 juillet 2026 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette rencontre, tenue sous la haute autorité du président de la République et la présence effective de Monsieur le vice-président de la République, a enregistré plus de 3600 participants issus de 49 pays, comprenant des autorités de haut rang, des principales institutions financières internationales, des banques multilatérales de développement, des fonds d'investissement, des investisseurs privés, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ces assises ont permis non seulement de renforcer la compréhension des priorités du PND 2026-2030, mais également de mettre en valeur le potentiel économique, le savoir-faire et les capacités d'innovation de notre pays. Les travaux ont été marqués par l'ampleur des engagements financiers annoncés par les partenaires au développement. Ces annonces d'un montant global de 80 milliards de dollars US, soit 47,820 milliards de francs CFA, représentent environ 4 fois l'objectif de mobilisation de 2,3 milliards de dollars américains, dépassant ainsi largement les attentes du groupe consultatif. En marge des travaux, le gouvernement a signé 5 accords de financement avec la Banque mondiale, représentant un engagement nouveau de près de 875 millions de dollars US en faveur de notre pays, soit environ 480 milliards de francs CFA. Ces accords couvrent les domaines essentiels que sont le développement communautaire, l'investissement privé, l'emploi, la gestion des ressources publiques et le développement des compétences. Le Conseil salue à nouveau le niveau remarquable des engagements ainsi que cette forte adhésion aux priorités de développement de notre pays, qui traduisent la qualité du partenariat entre la Côte d'Ivoire et les institutions multilatérales, les partenaires bilatéraux, les institutions financières, les investisseurs privés et l'ensemble des acteurs du développement qui étaient représentés. C'est sur cette dernière communication qu'a pris fin le Conseil de ce jour. Nous n'avons pas eu de point divers inscrit à l'ordre du jour et la date du prochain conseil a été fixée au 5 août. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour les éventuelles questions sur le conseil dans un premier temps. Vous connaissez la pratique, elle est traditionnelle maintenant. Et puis dans un second temps, s'il y en avait quelques préoccupations hors conseil, notamment d'actualité, il vous plaira d'aborder.
Bonjour, Monsieur le Ministre. Kamaludini Tagba de l'agence de presse Bloomberg. Vous avez fini votre point de presse avec le communiqué, la communication plutôt du ministre du Développement. On a entendu de la part du gouvernement que le secteur privé devait contribuer à son 10% au PND. On a vu les partenaires en développement de la Côte d'Ivoire qui ont fait une excellente promesse de 80 milliards de dollars. En ce qui concerne le secteur privé, on n'a pas assez eu d'informations sur les grosses boîtes internationales qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible de pouvoir avoir un peu d'informations sur ces pays où c'est la provenance de ces pays, les pays d'où proviennent les grandes boîtes éventuellement qui sont intéressées à investir en Côte d'Ivoire et si possible, nous dire quelques-unes de ces boîtes qui veulent investir dans le PND. Merci, Monsieur le Ministre.
Merci. Je vous indiquais qu'on avait 49 pays qui étaient présents lors de la deuxième phase de ce groupe consultatif, puisque la première phase a été consacrée aux institutionnels. Nous avons eu les annonces que nous avons eues. Et la deuxième phase, c'était essentiellement le secteur privé. Et le secteur privé est intéressé donc par certains grands chantiers que vous connaissez. Notamment le TGV qui est un des grands chantiers qui va mobiliser donc le secteur privé. Vous avez aussi l'aéroport, vous avez le port, donc certaines grosses entreprises donc se sont intéressées à ces différents projets, ces projets je dirais structurels. Donc, cela va se sentir à mesure donc de la matérialisation de leur engagement. Vous savez que c'est juste le début des discussions. Après, il faut voir les différentes formes que vont prendre les financements de ces projets, soit un PPP que nous encourageons véritablement, mais à tout un processus de discussion qui va s'engager à partir de maintenant. C'est comme pour les annonces qui ont été faites. Les annonces ont été faites, mais il y a un suivi qui va se faire pour que on ait la matérialité de ces annonces-là. Donc, effectivement, de grandes entreprises se sont positionnées sur ces grands projets infrastructuraux. Et donc, nous attendons que les discussions aboutissent pour arriver à la matérialisation de ces annonces qui ont été faites. Mais quand vous prenez le PND, vous voyez les grands projets qui sont inscrits donc dans ce PND. D'accord, ok, merci. Vous avez d'autres questions?
Sur l'actualité.
Ok.
Bonjour, Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Soro Siondenem pour le journal d'Abidjan. Alors, Monsieur le Ministre, lors de la récente opération de déguerpissement à Tekoubé, dans le reportage de nos confrères de la RTI du vendredi 17 juillet, un agent de la mairie de la dite commune rapporte, je cite, « Il y a des sites de recasement qui ont été prévus. On a sollicité des écoles qui sont dans les environs. On a le groupe scolaire municipalité, le collège dans Paulin-Claude, le groupe scolaire Mobio. Au fait, ces populations ne sont-elles pas comprises dans le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 1er juillet rapportant la mise à disposition des deux sites de relogement, notamment à Songon et puis voilà, sur l'autoroute du Nord. Après aussi, voilà, on a tendance à voir ce tandem déguerpissement et puis après, action de relogement. Monsieur le ministre, c'est quoi le hic quant au recasement des populations de Guépi?
Merci. Il n'y a aucun hic. Il y a des sites de relogement qui sont prévus. C'est ceux qui ont été indiqués. Mais il faut bien que, en attendant que ces sites qui sont en train d'être aménagés et qui doivent être construits soient disponibles, que ces populations-là soient quelque part. Les endroits que vous avez cités sont des écoles. C'est bien parce que les élèves aujourd'hui sont en congé qu'on peut loger de façon provisoire des populations dans ces écoles. Même quand vous prenez le cas du décapissement de Kumasi, une bonne partie donc des familles a été relogée, recasée de façon provisoire, il faut que je précise, dans une école où d'ailleurs la ministre Belmonde est partie donc leur rendre visite récemment. Donc il faut faire la part des choses entre les solutions urgentes qui sont réglées en relogeant les populations des Guépi de façon provisoire dans des écoles, comme c'est le cas d'espèces à Tekoubé et également à Kumasi, et puis donc l'opération de construction de logements sociaux pour toutes les familles donc qui sont déguerpis, et ça a commencé déjà à Songon, où ceux qui ont été déguerpis d'Adjamé dans le cadre d'opérations précédentes ont été relogés, et comme ce le sera sur les deux sites que je vous ai annoncés.
Monsieur le ministre, bonjour, je suis Yapi Koulibaly, journaliste émérite au quotidien de Jour Plus. J'ai deux préoccupations, une à l'international et puis l'autre au plan national. On va commencer par ce qui est d'Abidjan. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2026, un livreur de colis, père de deux enfants, a été pourchassé puis poignardé à mort en plein Cocody. Ses agresseurs se sont ensuite emparés de sa moto avant de prendre la fuite. Je profite de cette occasion pour adresser mes sincères condoléances à sa famille, que Dieu accueille son âme dans sa miséricorde. Maintenant, j'aimerais savoir, ce drame doit-il être considéré comme un simple fait divers ou révèle-t-il un véritable problème de sécurité dans notre pays? Merci. À l'international, Jean-Luc Mélenchon, qui fêtera ses 75 ans dans le mois prochain, qualifier la réélection du président Alassane Ouattara d'absolument anticonstitutionnel lors d'un meeting politique à Paris. Le leader de la France insoumise a ouvertement attaqué la légitimité du chef de l'État ivoirien, l'accusant d'avoir réalisé une performance électorale qui a consisté à éliminer ses concurrents pour se maintenir au pouvoir. Quelle réaction du gouvernement ivoirien? Puis est-ce que la Côte d'Ivoire compte engager des actions légales pour obtenir réparation? Merci.
Merci. Pour la première question, c'est un vrai drame, c'est une vraie tragédie quand on regarde le récit de l'assassinat de ce livreur de Yango. Et on peut comprendre donc la révolte légitime qui puisse animer l'ensemble de la communauté. Mais ce que je veux noter, c'est que les assassins ont été pris en quelques jours. J'ai eu l'occasion de le dire ici, notre police est organisée. J'ai eu à citer plusieurs cas de crimes qui ont été résolus parfois dans les heures qui ont suivi, en tout cas en moins d'une semaine. C'est bien la preuve que des efforts ont été faits pour sécuriser notre pays. Il y a quelques années, on n'aurait jamais retrouvé les coupables. Aujourd'hui, dans notre pays, grâce à tous les moyens qui ont été développés, grâce à l'accroissement des effectifs de police, grâce aux moyens qui ont été mis à la disposition des forces de police, je parle de police et de gendarmerie, eh bien, la plupart, je peux même me permettre de dire la quasi-totalité des crimes sont résolus. En tout cas, les coupables sont pris. Ça, c'est à saluer. Maintenant, pour ce qui est de la commission du crime, je ne connais pas beaucoup de pays où on empêche la commission. On peut dissuader, mais il y a toujours des crimes qui arrivent. Mais ce qui dissuade le plus, c'est quand vous savez que quand vous allez commettre un crime, vous serez pris. Dans notre pays, c'est ce qui se fait. Même des jeunes qui ont volé un ordinateur dans une voiture après avoir cassé la vitre à engrais ont été pris à Boaké. Il y a un maillage du territoire aujourd'hui qui est fait. C'est donc l'occasion de dire à tous les criminels qu'ils ne sont pas cachés. Aujourd'hui, la police a les moyens. Si vous commettez un crime, en fonction de la gravité de ce crime, parce que ça nécessite la mobilisation des ressources de l'État, eh bien, si vous commettez un crime grave, l'État met en parenthèse ce qu'il faisait pour traiter cela. On se concentre sur vous et vous ne pourrez pas échapper. Donc, c'est l'occasion de le dire. Donc, on ne peut pas parler d'insécurité quand on voit que nous avons un indice de sécurité aujourd'hui qui était descendu à 1.2, qui est celui de beaucoup de pays développés. Ça montre donc tous les efforts. Donc, moi, je voudrais qu'on salue cela, qu'on salue les forces de l'ordre qui font tout pour résoudre tous les crimes. Après, il y a une question d'éducation, il y a une question de sensibilisation pour éviter d'en arriver à la commission donc des crimes. Mais nous pouvons nous féliciter déjà du travail des forces de l'ordre. Pour les propos de Monsieur Mélenchon, Mélenchon n'est pas un officiel français. C'est un personnage politique qui a fait une déclaration politique qui date d'il y a 8 mois. Bon, vous connaissez le chic des réseaux sociaux de réveiller donc des propos qui ont été tenus donc il y a parfois plusieurs années. Donc nous n'avons pas à répondre à une personne politique. Le gouvernement n'en a pas fait une préoccupation particulière. Ça participe de sa liberté d'expression. Les propos qu'il a tenus n'engagent que lui. Non, c'est pas un officiel français. C'est un homme politique. Et puis les politiques lui répondront.
Bonsoir, Monsieur le ministre. Stéphane Kouassi, journaliste à Reflet TV. Monsieur le ministre, le 1er juillet dernier, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a publié une liste de 2639 produits cosmétiques jugés à haut risque. Pourtant, ces produits continuent d'être commercialisés sur le marché ivoirien. En dépit de leur non-conformité au décret numéro 2015-288 du 29 avril 2015, qui encadre la fabrication, l'importation et la distribution et la commercialisation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle en Côte d'Ivoire. Ma question est la suivante. Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour faire appliquer cette régulation, retirer ces produits sur le marché et protéger efficacement les populations des conséquences sanitaires liées à la dépigmentation artificielle cutanée? Merci, Monsieur le ministre.
Merci. Bon, déjà, l'autorité de régulation des produits pharmaceutiques a fait son travail en alertant l'opinion. Après, il y va de notre responsabilité. Vous savez très bien que vous avez toujours des concitoyens, hélas, qui contournent les textes, qui contournent les règles. Il appartient donc aux services de contrôle de faire leur travail, mais ça ne peut pas se réaliser, je dirais, en 24 heures. La décision est prise, les services de contrôle vont entrer en jeu, faire leur travail, mais il y a l'autodiscipline. Normalement, dès lors que ce texte a été pris, mais si les personnes concernées sont disciplinées, elles-mêmes devaient arrêter. Mais si elles ne se conforment pas, elles seront donc soumises à la rigueur de la loi, au fur et à mesure qu'elles seront prises et découvertes. Et je pense que les sanctions vont permettre une plus grande généralisation de l'application de ce texte-là. Vous avez pris l'exemple des produits pharmaceutiques, mais nous avons plusieurs exemples comme ça, où il y a des textes qui sont pris et où des Ivoiriens, de façon, je dirais, volontaires décident de contourner ces textes et parfois avec la complicité des usagers que nous sommes. Combien de fois est-ce que le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie n'a pas interdit l'utilisation du gaz comme combustible pour les voitures? Pourtant, ça se fait. Il y a des usagers qui montent dans ces véhicules, qui sentent bien l'odeur du gaz et puis qui n'exercent pas le contrôle citoyen en disant « je monte pas avec toi parce que tu contreviens au texte ». Rien que ça, par exemple. Donc, il y a la question du contrôle citoyen. Ce pays nous appartient à tous ceux qui vivent donc dans le pays sont soumis à des textes, à des règles. Nous devons respecter les textes qui sont pris donc dans notre pays et cela, chacun de nous doit y contribuer. Donc, il y a une question de sensibilisation, mais c'est vrai, l'autorité de régulation doit se donner les moyens et il y a des services de contrôle qui travaillent donc au respect des textes qu'il prend, mais sur toute l'étendue du territoire, vous imaginez le temps que ça peut prendre. Nous restons convaincus que, comme cela se fait au niveau du ministère du Commerce, où de plus en plus les inspecteurs vont contrôler les prix, il y a des sanctions qui sont prises, mais vous savez très bien qu'il y en a toujours qui essaient de passer à travers les mailles. On commence à avoir un peu d'ordre. Je reste convaincu que dans le cadre donc des produits pharmaceutiques, avec le contrôle, avec les sanctions qui vont tomber pour les contrevenants, l'ordre va revenir aussi dans ce secteur.
Merci, Monsieur le ministre. Bloomberg, encore une fois. Excellence, la semaine dernière, un groupe de scientifiques a encore sonné la sonnette d'alarme. Ce qui concerne les pluies diluviennes qui vont encore toucher notre sous-région. On sait que début de cette année, début de ce mois plus tôt, le gouvernement déjà a exprimé, comment ça s'appelle, après qu'on ait eu au moins 59 personnes qui sont décédées dans les premières pluies. Vous avez, le gouvernement a exprimé sa condoléance plutôt aux populations. Maintenant, devant la menace, cette nouvelle menace qu'est en train de souligner les scientifiques, est-ce que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour pouvoir empêcher ces prochaines pluies d'avoir plus d'impact sur nos populations? Et si les engagements sont en train d'être pris, est-ce en termes d'investissement, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la question, en termes d'investissement, ce que le gouvernement est en train de mettre en ce qui concerne la construction des infrastructures afin que ces pluies qui sont en train d'être prévues ne puissent pas affecter davantage nos populations. Aussi, on sait que la Côte d'Ivoire dépend beaucoup de l'agriculture, tel que le café, le cacao. Est-ce que il y a également en anglais on dit concern, il y a des préoccupations plutôt que ça va affecter la production du cacao. Est-ce que c'est également une peur au niveau du gouvernement? Merci.
Merci. Vous savez, pour l'investissement dans le cadre de la lutte contre les effets climatiques, c'est plusieurs secteurs qui sont concernés. Il me sera difficile de vous donner un chiffrage ici tout de suite. Je pense que le ministre de l'Intérieur a évoqué les chiffres lorsqu'il a réuni donc la commission justement chargée de ces questions. Vous aviez les questions de solidarité, de relogement qui ont un coût. Vous avez les questions d'aménagement, notamment d'assainissement, qui ont leur coût aussi. Donc, c'est un ensemble donc d'opérations qui doit être mises en œuvre pour cela. Ça a été évalué. Le ministère de l'Intérieur donc pourra vous donner les coûts. Je vous invite donc à les approcher. Mais vous devez savoir que les dégâts se poursuivent. Tout le monde a compris aujourd'hui qu'il y avait intérêt à quitter des lieux à risque. Tout le monde l'a compris maintenant. C'est vrai que on a voulu jouer sur l'émotion, faire passer le gouvernement pour un gouvernement sans cœur, mais quand tout le monde a vu la réalité des chiffres, 59 morts, c'est énorme. Tout le monde a compris aujourd'hui le bien fondé. Nous sommes le pays qui est le plus touché. Sur la centaine de morts qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest, dans le cadre donc de ces intempéries, la Côte d'Ivoire seule a fait 59 morts. C'est énorme. Et tout ce que le gouvernement a essayé de faire, c'était d'anticiper sur ces morts-là. Hélas, nous n'avons pas été suivis. Il y a eu cet événement, mais tout le monde comprend maintenant qu'il n'y a aucun intérêt. Je le dis chaque fois, je ne connais aucun régime qui peut prendre un plaisir à martyriser ses populations. En tout cas, pas celui qui est en Côte d'Ivoire. Tout ce qui a été fait, c'était pour le bien des populations. Donc, ces déguerpissements se poursuivent. Tous les bons penseurs ont compris, parce qu'ils ont ces morts sur la conscience aujourd'hui. Personne n'en parle, mais il y a deux ou trois jours, à Tekoubé, donc ils sont allés déguerpir des zones à risque. Voilà l'importance. Donc, les opérations se poursuivent, les opérations d'assainissement aussi se poursuivent, les opérations de redimensionnement de certains ouvrages, donc, ont commencé. La route de Bingerville, qui avait été coupée, a nécessité un redimensionnement des ouvrages. Ces travaux également ont commencé. Donc, vous voyez, il y a le ministère des infrastructures qui est concerné, il y a le ministère de la solidarité qui est concerné, il y a le ministère de l'assainissement qui est concerné, il y a le ministère de la sécurité qui est concerné. C'est tous ces budgets-là qui ont été mis ensemble lorsque nous avons eu la session avec au ministère de l'Intérieur, donc qui a les chiffres et puis qui pourront vous les communiquer. Je vous remercie.
Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Jules Echenda pour ActiCI.info. Monsieur le ministre, j'ai deux petites préoccupations. Une porte sur le secteur du cacao, qui tient une part de son origine de la crise pour le non-respect des recommandations ou exigences du gouvernement. Le gouvernement a décaissé une enveloppe de 291 milliards de francs CFA en janvier dernier pour l'enlèvement du stock résiduel impayé aux producteurs. Nous avons sillonné le pays, mais déjà nous avons quelques éléments de preuve qui font ce bruit au sein des producteurs. Bon nombre de producteurs n'ont pas été rémunérés à la mesure des 2500 francs le kilogramme qui avait été recommandé par le gouvernement et fixé comme prix. C'est à 1200 francs que finalement les acheteurs, sinon les coopératives commis, ont rémunéré ces producteurs. Je voulais savoir, monsieur le ministre, quand le gouvernement prend des décisions, quel est le suivi qu'on fait sur le terrain pour savoir que les destinataires de ce programme-là ont été vraiment bénéficiaires. Deuxième préoccupation, monsieur le ministre, juste hier, il y a eu une augmentation des denrées alimentaires, notamment le riz rizière. Précédemment, le prix était de 11 600 francs. Hier, à 17 heures, quand je suis passé au supermarché, c'est passé à 12 800 francs, soit 1200 francs d'augmentation. Je voulais savoir si cette augmentation se justifie. Merci, monsieur le ministre.
Bien, merci. Vous me permettez de répondre à la suite de la question donc de Bloomberg pour ce qui est des conséquences des intempéries sur la production de cacao. On ne saurait vous dire, c'est vrai, on prend les dispositions, mais tant que la situation n'est pas arrivée, on ne peut pas mesurer quel est l'impact. Pour le moment, on n'a aucune inquiétude sur notre production, donc on observe. La campagne, c'est pas maintenant qu'elle va s'ouvrir, donc on a encore le temps. Pour ce qui est donc de l'enlèvement des produits, vous savez, il faut faire très attention donc des analyses qui sont pas poussées. La vérité, ce qui s'est passé dans le cacao, c'est que certains producteurs, sachant que les cours allaient monter, ont stocké. Ils ont voulu spéculer. Et la décision que le gouvernement a prise, c'était pour la campagne en cours, c'était pas pour la campagne précédente. Donc les 2800 qui ont été amenés pour faciliter donc la sortie des produits donc à 2500 par kilo concernaient la campagne en cours. Lorsque le DG du Conseil Café Cacao a fait son point, vous avez vu qu'il avait noté une augmentation par rapport à ce qui devait se faire traditionnellement de la quantité de cacao qui était sortie. eh bien, c'est ce cacao qui avait été stocké pour de façon spéculative bénéficier de l'amélioration des coûts. C'est comme ça que cette décision a été prise, que pour tous les anciens stocks qui n'étaient pas concernés par la campagne à court, donc ce soit à l'ancien coût. C'est pas plus compliqué que cela. On connaît aujourd'hui notre production. On sait à peu près quel est notre tonnage qui va sortir. Donc on peut prévenir, on peut prévoir. Mais effectivement, quand pour spéculer, des gens ont conservé du cacao qu'ils ont voulu mêler donc à la campagne qui était en cours parce qu'ils voulaient bénéficier donc de l'amélioration des coûts. Commercialement, ça peut se comprendre, mais l'État n'avait pas prévu ça, puisque l'État avait déjà une évaluation du stock qui devait sortir. Donc, nous avons bien entendu cette question-là, mais vous pourrez poser la question au Conseil Café Cacao. Il pourra vous répondre avec beaucoup plus de précision sur ce qui s'est passé, de sorte que d'un commun accord avec donc l'organisation, ils sont tombés d'accord sur ce coût pour les anciennes productions et que le cacao qui concernait la campagne dont on voulait faciliter l'enlèvement était fixé donc à ce coût de 2500. Oui. Pardon. L'augmentation du riz, mais le ministère du Commerce fait les contrôles réguliers. Et si vous savez les magasins qui ont fait cette augmentation, vous les communiquez au ministère du Commerce. Il y a des numéros verts pour cela. J'ai toujours déploré qu'on attende le Conseil des ministres pour poser les problèmes. Le ministère du Commerce envoie régulièrement des agents sur le terrain. Et très souvent, vous entendez des commerçants se plaindre du contrôle. Mais si on ne fait pas le contrôle, on ne peut pas savoir quels sont les opérateurs véreux. Donc, les contrôles se font, ils se font de façon régulière. Il y a un numéro vert pour dénoncer tous ceux qui ne respectent pas les prix. Je vous prie d'utiliser donc ce numéro vert. À défaut, il y a le 101 qui est simple à retenir. Vous communiquez, il y aura une mise en relation avec le ministère du Commerce. Il y a eu des situations où des commerces ont été sanctionnés, leurs marchandises saisies, parce que sur dénonciation, on a découvert que effectivement ils avaient augmenté le prix de certains produits. Je me souviens bien, c'était l'huile précisément. Donc, faites confiance aux structures que l'État a mises en place. N'attendez pas le Conseil pour venir me poser des problèmes d'augmentation de 1200, alors que l'État a mis en place toutes les structures qui permettent de répondre à ces préoccupations-là. Je le répète, le ministère du Commerce a des contrôleurs. Il a un numéro vert, le gouvernement a un numéro gratuit, le 101, qui permet aux populations de poser leurs préoccupations, quel que soit le domaine, et une mise en relation est faite avec le ministère concerné.
Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Abdoulaziz Diallo, correspondant de RFI à Abidjan. Monsieur le ministre, le PPACI, le parti dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo, a annoncé la création d'un observatoire parlementaire. Cette structure est présentée comme un outil de suivi et d'évaluation des travaux de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, ma question est de savoir quel regard est-ce que le gouvernement porte sur cette initiative, surtout que le PPACI n'a pas de député présentement au sein de l'Assemblée. Merci beaucoup.
Ben, nous n'avons aucun regard à porter. Le PPACI sait comment va fonctionner son observatoire. Dans tous les cas, nous sommes un gouvernement transparent, nous sommes un gouvernement ouvert, nous n'avons rien à cacher. Le PPACI pourra demander tout ce qu'il veut comme information, et bien ça lui sera fourni si c'est demandé dans les règles de l'art. Nous avons une commission d'accès à l'information et aux documents publics qui existent pour s'assurer de la mise à disposition donc de l'information publique et administrative par tout citoyen ivoirien qui le souhaite. Nous sommes un gouvernement ouvert. Donc, nous n'avons aucun problème, nous n'avons rien à cacher. L'Assemblée a su déjà le contrôle de l'action donc de l'exécutif. Maintenant, s'il se trouve que une association politique veut surveiller aussi l'Assemblée, bon, nous ne voyons aucun problème à cela. C'est elle qui sait comment est-ce que cette association, je veux dire, comment est-ce que ça va fonctionner. Nous ne savons pas comment ça va fonctionner.
Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je suis Vénant Sakar, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur le Ministre, dans deux semaines, la Côte d'Ivoire célébrera l'an 66 de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le chef d'état-major général des armées a animé une conférence de presse où il a annoncé la participation de 4 pays en tant que pays invité. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a des démarches qui ont été entreprises pour inviter d'autres pays? Et puis, si au niveau national, il y a également des démarches qui ont été entreprises pour inviter certaines personnalités telles que l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo. Je vous remercie.
Il s'agit de la fête nationale et comme vous le savez, pour ces fêtes-là, en général, toutes les personnalités sont invitées. Après, c'est à elles de répondre ou de décliner. Ça ne s'est jamais fait sans que tout le monde ne soit invité. Donc là-dessus, j'ai pas d'autres commentaires à faire. Et vous imaginez que le chef d'état-major ne peut pas avoir fait ses déclarations annonçant que 4 pays seront invités si ce n'est pas passé par le gouvernement. Donc je pense que ce sera ces 4 pays-là. Maintenant, si d'autres personnalités décident de venir, ben donc c'est à la présidence qu'elles s'adresseront. Et puis la présidence va communiquer sur les personnalités qui ont décidé de participer à notre fête nationale.
Bonjour Monsieur le Ministre, Balogna Dama pour le baromètre. Alors, pour revenir encore sur une déclaration du PPCI et du PPACI hier, le parti a répondu à une de vos sorties récentes sur le pacte social développé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Le parti dénonce des propos injurieux et incompatibles avec votre fonction de ministre et porte-parole du gouvernement. Il évoque aussi une banalisation de la décision de la CPI. Alors, que répondez-vous à cette sortie? Merci.
Alors, quand je suis à ce pupitre, je suis porte-parole du gouvernement. Mais je suis également militant d'un parti, je suis RHDP, je suis secrétaire départemental de ce parti, donc il faudrait que les gens acceptent que... Il y a le porte-parole du gouvernement qui fait son travail, qui fait le compte-rendu, qui répond aux questions qui touchent le gouvernement. Et puis, il y a le militant. Je ne voudrais pas... Parce que, bon, après, chaque fois que vous dites quelques petites vérités, on vous traite d'arrogant. Mais il me plaît de rappeler que en 2010, il y a une autre personnalité de ce pays qui était candidate à sa propre succession. Et je me souviens qu'au cours d'un de ses meetings, elle a dit à ceux qui la critiquaient d'utiliser les moyens de l'État, je suis 100% président, je suis 100% candidat. Amadou Coulibaly est 100% RHDP, Amadou Coulibaly est 100% porte-parole, tant que le chef de l'État lui fera confiance. Donc, je mène mes activités de porte-parole, mais après je suis militant, et en tant que militant, le militant qui est en moi peut répondre aux militants d'un parti politique, en fût-il le président.
C'est